Zonzon Zef, la radio du coin.
1, 2, 1, 2. Bonjour à tous.
C'est toi qui parle.
Arrêtez de me regarder, là, je bloque.
Rigolez pas, me regardez pas, parce que sinon je vais pas...
Zonzon Zef, la radio du coin.
Un sens pour les câbles, des fois.
Ça, c'est fort.
Bonsoir.
Ouais,
non,
mais attends, je vais prendre un micro comme ça.
Mais... Non, bah oui, parce que on va peut-être le refaire sans écho, mais c'est sûr, ça va faire trop d'écho.
La musique de la Panthère Rose, une musique choisie par Mousse, qui est pas là pour nous expliquer pourquoi il a choisi cette musique, mais
alors moi je pense que dans le générique du dessin animé de la Panthère Rose, j'ai souvenir que la panthère est enfermée dans une cage avec des barreaux, d'où le choix de cette musique.
Voilà, ça l'a traumatisé, les barreaux, faut croire. Et donc on est bien dans l'émission Zonzon Zef à la maison d'arrêt de Blois. Sur 91.1 à Blois, 91.7 à Vendôme, sur Studio Zef.
On enregistre l'émission dans la bibliothèque de la maison d'arrêt.
Exactement, et on est avec Armand et Thomas.
Yes.
Et Jérémy.
Bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Hello.
Et aujourd'hui, l'émission porte sur le CDAD 41. On a reçu la procureure de la République et des représentants du CDAD. Donc pour répondre à des questions qu'on avait réfléchies au préalable ensemble, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant. Donc voilà, on était
six. Mais qu'est-ce
six.
Donc le CDAD
et c'est bien, quoi
le CDAD, c'est le Conseil départemental de l'accès au droit. Donc ça concerne surtout les personnes les plus démunies, mais bon, on parle de droit, donc c'est un peu fait pour tout le monde aussi. Enfin, les gens qui ont des questions... peuvent se tourner vers eux. Il y a 22 points justice.
C'est quoi, c'est des avocats ?
Il y a des avocats, il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout, juristes, des professionnels.
Alors je crois qu'au départ,
droit.
C'est surtout des juristes qui nous orientent après vers les professionnels
exact.
Du d'accord. droit, donc, en voilà. fonction des demandes. Et donc c'est réparti en effet sur le Loir-et-Cher, avec plusieurs points, donc des points justice généralistes, des points justice en France Service, et des points justice plus spécialisés qu'on peut trouver au tribunal judiciaire de Blois ainsi qu'à la maison d'arrêt de Blois.
Voilà, exactement.
Donc en fait, ils donnent des conseils juridiques gratuits, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Pour les personnes qui n'ont pas trop de connaissances, déjà même pour les personnes qui n'ont jamais, on va dire, eu de soucis juridiques, judiciaires ou ouais. qui... vont peut-être avoir leur première peine ou pas. Enfin, on a toujours des questions, on n'a pas forcément les réponses. Donc, c'est fait pour aider les gens, que ce soit les plus démunis comme d'autres. Hein. C'est pas forcément pour les plus démunis.
Ouais,
tout le monde peut y avoir accès.
C'est ouvert à tous.
Voilà, c'est ouvert à
tous. Ok.
Voilà. Voilà, voilà.
Merci.
Je pense qu'on a décrit à peu près l'émission. Armand, est-ce que tu as déjà fait de la radio dans le passé ?
Bonne question. J'ai pas le souvenir. Non, je pense pas. Mais j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais plus jeune.
Ouais, ça.
Et puis j'écoute la radio aussi quand je suis sur la route.
Ah bah oui, ouais, bah oui, toi forcément.
Je suis routier. Ouais. Donc
la radio, c'est tous les jours finalement.
Ouais, la radio.
T'accompagne dans tes déplacements.
Voilà, tout à fait, ouais, m'accompagne, ouais, c'est le mot.
T'es de quelle année toi, Armand ?
Moi, je suis de 81.
Et toi ?
Moi, c'est Thomas, donc je suis de 83, j'ai 40 ans, je vais sur ma 41e année. Okay. Et moi, c'est tout nouveau l'enregistrement d'une émission de radio.
Okay.
T'as connu le doc et Diffou
Oui. J'ai connu ça. Moi, je suis de 86. Ouais.
Ah, t'as connu c'était quoi,
sur Skyrock.
Sur Skyrock, ouais. Même Fun Radio et toi à l'époque.
Ouais, Fun Radio.
Moi, c'était la grande époque de la radio. Ouais. On se couchait pas avec la télé, on se couchait avec la
radio.
Ouais,
on se couchait avec la radio.
Avec le petit poste dans la chambre. Et,
c'est ça, exactement.
Fun Radio, Skyrock.
Je me souviens, j'avais hérité d'un vieux lit avec le poste incrusté dans la tête de lit à l'époque.
Ça se faisait, ah oui, d'accord. Ouais.
Tu réglais ta station avec la petite barre là qui passait entre les stations. Je sais pas si ça se fait encore, mais
ça se fait, j'ai déjà vu. Mais j'ai jamais fait de radio, participer à une émission comme ça, non, c'est la première fois.
Ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais ça faisait longtemps. Puis dans un cadre comme ça, jamais.
Oui.
Ouais, non. Pas en tant que détenu comme ça. Non,
non, mais bon, c'est sympa.
Ouais carrément. Ouais, c'est une bonne expérience.
Une bonne expérience, tout à fait.
Et donc, avant d'enchaîner sur l'émission, nous avons le directeur de la prison, M. Léonard, qui va s'exprimer sur l'émission de radio, sur le thème et l'activité en elle-même. Voilà.
Donc, j'ai souhaité consacrer une émission spéciale au CDAD 41, donc le Centre d'accès au droit du Loir-et-Cher. Vraiment, je remercie aussi pour cette émission spéciale la présence de Mme Belluet, procureure de la République de Blois. Donc le CDAD intervient deux fois par mois au niveau d'établissement sur sollicitation du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc nos publics peuvent avoir accès aux droits, connaître leurs droits qui, au niveau de la détention et de l'extérieur. Donc c'est un dispositif qui est essentiel, très important. Donc nous, on communique beaucoup auprès de nos personnes détenues sur ce dispositif, par le biais aussi de notre journal interne, Le Canard Libéré, par voie d'affichage. On leur donne aussi des documents. Voilà, on est très... C'est très important que les personnes détenues puissent saisir et être orientées vers ce dispositif d'accès aux droits, puisque les personnes détenues ont des obligations, mais aussi des droits auxquels nous sommes très attachés. Voilà, donc vraiment, cette émission va pouvoir apporter un éclairage présenté. Et je suis ravi que les intervenants, les juristes, parce qu'il y a des juristes qui travaillent au sein du CDAD 41 et Madame la procureure de la République, viennent en échanger avec nos personnes détenues dans le cadre de ces ateliers radiophoniques avec Studio Zef. Voilà.
Et donc on va faire une petite pause musicale avec une musique de Johnny Hallyday qui est en tout cas utilisée pour le film Entre chien et loup. Je ne sais pas si c'est une musique qui a été faite spécialement pour ce film-là, mais en tout cas c'est la musique du film Entre chien et loup et ça s'appelle Là-bas. Voilà.
Là-bas. C'est pas Goldman.
C'est
pas Goldman.
Non. Ah, ou alors il a changé de voix. Changé de voix.
D'accord. Okay.
Et voilà.
Des ombres glacées qui viennent te marquer le visage. C'est que des bris de clés à tous les étages. C'est des envies d'ailleurs qui passeront jamais le grillage. C'est des hommes qui pleurent dans tes lits tronçages. Là-bas c'est un monde à part et sans toi. Là-bas c'est une vie comme tu n'en peux pas. Là-bas le temps se fige, c'est même pas qu'on t'oblige. C'est comme ça, là-bas. C'est les jours qui se comptent à coups de craie sur des murs noirs, comme un tableau qui te redonne l'espoir. Juste un peu de honte quand tu te retrouves au parloir. C'est mieux que si personne ne venait te voir. Et là-bas c'est un monde à part et sans toi. Là-bas c'est une tu parles pas. Là-bas, tous les coups du sort sont pour toi. Là-bas, le temps c'est comme ça là-bas.
Alors, bienvenue sur Radio Zef, dans l'émission Zonzon Zef, avec aujourd'hui une émission autour du CDA des 41. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame la Procureure de la République, la juriste coordinatrice et juriste du CDA des 41. Donc l'émission tourne autour justement de qu'est-ce que le CDA des 41. On a prévu quelques petites questions avec des détenus de la maison d'arrêt de Blois. Donc on a avec nous Armand, Thomas et Mousse, et moi-même, parce que je suis détenu également. Et donc on va essayer d'avoir des réponses à nos questions, essayer d'éclairer aussi les gens qui pourront nous écouter sur le CDA des 41, qu'est-ce que c'est. Voilà, on peut peut-être se présenter ou je ne sais pas si...
Alors, je suis Charlotte Belluet, procureure à la République de Blois. Je suis par ailleurs vice-présidente du Conseil départemental d'accès au droit, sachant que le président de cette structure est aussi le président du tribunal judiciaire de Blois, Alexis Mimand. CDAD, Conseil départemental d'accès au droit, c'est une structure publique qui existe en réalité dans tous les départements, qui est composée donc d'un président, qui est le président du tribunal judiciaire, d'un vice-président, qui est le ou la procureure de la République, et ensuite d'une juriste coordinatrice, puis d'une juriste qui vont se présenter après moi. L'objet du CDAD étant de permettre un accès au droit à tout justiciable, quelle que soit sa situation personnelle.
Bonjour à tous, je suis Clémentine Copin, je suis coordinatrice juriste du CDAD 41. Donc je suis en charge, enfin responsable de tout le réseau d'accès au droit au sein du département du Loir-et-Cher.
Bonjour, je suis Nathalie Crétois, la juriste du CDAD. J'ai le plaisir d'intervenir à la maison d'arrêt de Blois deux fois par mois, le mercredi. Je suis sollicitée par le SPIP qui relaie les demandes des détenus souhaitant avoir des informations juridiques sur toutes les problématiques de droit en matière de droit de la famille lorsque le détenu par exemple est séparé de son conjoint et qu'il souhaite avoir des informations sur ses droits en matière d'exercice d'autorité parentale, mais ça peut être également lorsque, à titre d'exemple, un détenu exerçait une activité professionnelle indépendante à son compte et qui souhaite régulariser la situation puisqu'il ne peut plus continuer son activité de fait.
Mais ça va un peu avec les questions qu'on avait Ouais, c'est ça. Parce que nos premières questions, c'était à qui s'adresse le CDAD ? Et le CDAD s'adresse-t-il aux détenus ou bien a-t-il une mission plus généraliste ? Répond-il à des questions génériques ou bien également à des demandes plus personnalisées en fonction de chaque dossier ?
Alors, le CDAD, c'est une structure qui est ouverte à n'importe quel justiciable. Hein, l'idée, c'est de faire connaître ses droits et ses devoirs et de pouvoir ensuite orienter le justiciable vers, à nouveau, la bonne structure. Par exemple, il a besoin d'un avocat, lui dire, pour tel contentieux, je vous renvoie à la nécessité d'avoir un avocat. Voilà, par exemple. Mais on a un point CDAD au sein de la maison d'arrêt pour les détenus, qui est un peu plus spécifique, puisque là, on est en milieu fermé. Mais néanmoins, voilà, c'est ouvert à tout le monde, et ce n'est pas qu'en détention que vous avez ce point CDAD. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, c'était très large, et c'est au service de tout le monde. Et puis, on s'est rendu compte que les détenus qui étaient enfermés, qui ne pouvaient pas aller au CDAD, il fallait que ce soit nous qui aillions vers eux. Donc, on est venu en détention pour compléter les missions du service d'insertion et de probation qu'on appelle SPIP, puisque eux sont sur un autre volet. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les détenus dans la détention et pour les condamner à des peines définitives, les aident à préparer des projets de sortie. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes missions.
Donc on a vu que c'est des juristes qui interviennent principalement et autrement vous orientez vers les métiers juridiques, avocats ou professionnels juridiques.
C'est ça. Pour expliquer une permanence plus précisément, nous voilà, on informe sur les droits, les obligations de chacun. Bien sûr, avec toujours la limite, nous n'avons pas le droit de faire du conseil juridique. Dans ce cadre-là, si nous voyons qu'un usager a besoin de conseil juridique, nous les renvoyons vers les professionnels du droit, donc les avocats, notaires, s'il y a besoin, commissaires de justice, anciennement huissiers de justice. Et si nous voyons éventuellement qu'il peut y avoir une autre problématique plus, on va dire, sociales, notamment les aides financières, tout ça, nous ne sommes pas compétents. Donc nous renvoyons notamment vers les associations qui sont compétentes, les assistantes sociales, bien sûr. Mais si on voit qu'il y a aussi un problème au niveau de la gestion du budget, souvent voilà, nous rencontrons des cas où voilà, il y a des situations financières en difficulté, nous renvoyons vers l'UDAF qui ont des points conseil budget, etc. Donc voilà, nous informons, nous avons une mission d'information générale sur tout type de droit, mais s'il faut renvoyer vers un partenaire qui a une compétence plus particulière, dans ce cadre-là, nous renvoyons vers le partenaire compétent.
Ouais, ouais, très bien. Ma question est un peu dans ce sens-là. Vous y avez un peu répondu en grande partie. Si j'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes en lien avec des partenaires, avocats ou autres, que nous, on peut solliciter si on n'a pas trop les moyens de se payer un avocat? Est-ce qu'on peut être assisté par un... Mais bon, vous avez déjà répondu à la question. Donc du coup, on voulait savoir quelle est la différence entre le CDAD et le défenseur des droits.
Alors pour préciser, donc nous avons 26 points justice où nous avons différents partenaires. Donc oui, nous avons un lien très fort avec tous les partenaires du département et nous en avons énormément. Par exemple, à la Maison de la Justice et du Droit, vous pouvez rencontrer donc les avocats, des notaires, l'UDAF aussi, il y a France Victime 41, donc voilà, énormément de partenaires, notamment dans notre point justice à Vendôme, Romorantin, et aussi au sein de nos France Services. Mais là, par contre, les points justice en France Services, nous aurons juste des permanences de Madame Crétois, juriste généraliste. Et donc, la différence entre CDAD, défenseur des droits, défenseur des droits aura une compétence particulière. Déjà, il descend de la Constitution, si je ne me trompe pas. Il aura des missions particulières. Lui, il va être compétent pour tout ce qui est contentieux administratif. L'usager a un contentieux avec, par exemple, une école publique. Dans ce cadre-là, la personne peut contacter le défenseur des droits et demander à ce défenseur éventuellement d'expliquer ses droits. Mais il va avoir aussi un pouvoir d'enquête en plus. C'est-à-dire contacter la structure, l'école publique, dire qu'est-ce qui se passe, comment c'est arrivé, demander des explications, alors que nous n'avons pas ce pouvoir d'enquête.
De rentrer dans le détail de l'affaire.
C'est ça, on ne fait pas de suivi finalement. Nous, on informe. Après, voilà, les personnes, il n'y a pas de souci, si elles veulent reprendre un rendez-vous par la suite, voilà, nous pouvons, mais nous ne ferons pas de suivi de dossier. D'accord. Au contraire, le défenseur des droits qui, lui, suit un dossier, contacte les structures compétentes. Et
on voit bien la différence, oui.
C'est ça. Et donc, il fait tout ce qui est droit administratif, droit des mineurs, tout ce qui est aussi toutes les questions de discrimination également. Et voilà, je crois que c'est tout au niveau des missions du défenseur des droits.
D'accord, très bien.
Que nous, on traite de tout droit, que ce soit du droit civil, donc des questions de droit de la famille, comme a pu préciser Madame Crétois, droit du travail, tout ce qui est mesures de protection éventuellement, donc tout ce qui est tutelle, curatelle pour les personnes vulnérables. Mais nous traitons aussi du droit pénal, que ce soit autant les victimes que les auteurs, s'ils veulent connaître leurs droits, la suite d'une procédure, voilà, nous pouvons expliquer. Et nous faisons aussi du droit administratif. Donc voilà, j'ai un problème avec la CAF, ils me refusent mes droits. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la procédure, quel intervenant je peux aussi contacter, etc.
Très bien, c'est vraiment des informations très, très claires. Parce qu'on se posait ces questions-là auparavant, et puis vous avez bien répondu à nos interrogations.
Finalement, c'est assez un très bon complément. Avant d'être coordinatrice juriste du CDAD, j'étais juriste, donc je faisais toutes les permanences dans les points justice. Et souvent, on explique le droit en général, mais nous ne sommes pas forcément spécialisés, par exemple, en droit administratif. Donc souvent, moi, ce que je faisais, c'est que si vraiment il y a besoin d'un suivi, je renvoyais les usagers vers le défenseur des droits qui a ce pouvoir d'enquête. Donc finalement, c'est aussi une très belle collaboration qu'on a aussi. D'accord. Avec les partenaires. Donc on n'hésite pas à renvoyer.
Et en pratique, quand quelqu'un se présente, en fait, dans les points juridiques ou les points services, est-ce qu'il est pris en charge directement ou est-ce que c'est en pratico-pratique ou est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est pris
Alors,
comment ça se passe, en fait?
Alors, en effet, toutes les permanences se font sur rendez-vous. Donc, c'est chaque point justice qui prend les rendez-vous de la juriste généraliste. Donc là, en dehors de la maison d'arrêt, mais dans le cadre des permanences au sein de la maison d'arrêt, c'est la personne en détention qui envoie au SPIP sa demande et le SPIP nous transmet la demande. En dehors, si voilà, vous allez dans un point justice, on ne verra pas dans l'émission de radio, mais juste pour que vous puissiez visualiser. Donc tout ça, c'est nos points justice. On en a 26 en tout. En rouge, ce sont nos points justice généralistes. Donc là, vous allez avoir un panel de partenaires, comme je disais, notaires, UDAF, CIDFF, etc. Et en bleu, ce sont tous les points justice en France Service. Tous les points justice en France Service, vous allez avoir toutes les permanences de la jurée généraliste. Ces points justice en France Service, je ne sais pas si vous connaissez les France Service. Est-ce que vous... Si vous connaissez des lieux d'accueil, voilà, qui permet de retrouver le aller vers les usagers qui ont des questions, que ce soit avec les finances publiques, avec la justice, ils peuvent aller dans ces lieux. Et c'est les agents d'accueil qui prennent les rendez-vous et après qui transmettent à la jurée généraliste, si tu veux compléter.
Oui, je voudrais rebondir. L'accès au droit, ça passe aussi par... La proximité géographique, c'est-à-dire que je me déplace donc sur tout le département. À titre d'information, pour le mois d'octobre, j'ai fait 1110 km pour renseigner, informer, renseigner les usagers. Le point d'honneur que nous avons au CDAD est que l'usager ne sortira jamais de la consultation juridique sans réponse. On peut ne pas nous connaître la réponse, on ne sait pas tout. Le droit est un domaine très vaste et parfois très complexe, mais nous savons faire. Et nous revenons vers l'usager après avoir réalisé une recherche. Il ne sera pas laissé sans réponse.
Ouais, est-ce que c'est des questions qu'on avait aussi j'ai une question par exemple, vous y avez répondu, souvent vous avez répondu aux questions qu'on se posait. Mais c'est qu'est-ce qui nous protège une fois que nous avons passé les portes de la maison d'arrêt ? Qui est-ce qui nous informe de nos droits et s'assure que le détenu les connaisse ? Donc ça, ça répond à la question. Quelle solution s'ouvre au détenu afin de contacter le CDAD ? Tout ça, c'est des choses que vous nous avez répondu. De manière plus générale aussi pour faire entendre leur voix, faciliter certaines demandes. Parce que des fois, les délais de traitement sont extrêmement longs. On est un peu face à nous-mêmes en attendant des réponses. Déjà, de savoir ça, je pense que ça rassure quand même de savoir que ça existe et qu'on peut se faire entendre, quoi.
Sachant peut-être juste pour précision que pour le point qu'il y a au sein de la maison d'arrêt, en 2022, c'est 22 condamnés ou détenus qui ont été reçus. Et là, en 2023, c'est 64 détenus qui ont bénéficié de cette aide. Donc on a quand même on a sensiblement augmenté, sachant que je pense qu'on peut augmenter encore. Et que l'idée, c'est de vraiment permettre cet accès aux droits des détenus.
Armand qui me demande si le nombre d'agents, est-ce qu'il est suffisant ? Comment ça se passe ? Combien est-ce que vous êtes pour pouvoir justement donner toutes ces informations aux détenus ?
Alors, au sein du CDAD, nous sommes 2 salariés.
D'accord.
Bien sûr, nous avons nos chefs, qui est monsieur le président du CDAD et madame la vice-présidente, madame Belluet. Nous sommes 2 salariés, donc moi, madame Copin, coordinatrice, et madame Crétois, qui est la juriste généraliste. Et nous avons bien sûr une service civique. Peut-être pour parler plus de ses missions à elle, elle sera en charge des actions de sensibilisation, de prévention auprès des jeunes. Donc, nous accueillons au sein du tribunal judiciaire des écoles qui veulent assister aux audiences correctionnelles. Donc tout ça, nous le faisons ensemble avec la service civique pour coordonner tout ça. Là, nous avons reçu énormément de demandes. Donc voilà, il faut pouvoir gérer faire toute cette gestion. Mais on fait aussi des actions de prévention, de sensibilisation en dehors du tribunal judiciaire. Donc nous allons dans les écoles présenter notre passeport pour la majorité. C'est un petit livret qui explique aux jeunes majeurs et ceux qui vont en devenir leurs droits en matière de droit de la famille, droit du logement, droit du travail, les obligations aussi qui en découlent, leurs devoirs. Et donc nous présentons ce petit livret d'une manière interactive avec les élèves. Et puis on fait aussi des forums pour les jeunes, etc., pour présenter le droit d'une manière plus ludique. Tu veux compléter ? Ah oui, procès fictif. Oui, procès fictif. On fait tellement de choses. On fait aussi des procès fictifs avec les jeunes.
Mise en situation ou un peu.
C'est ça. Même on reconstitue entièrement un procès. Là, avec les primaires, nous faisons un procès en correctionnel. Et là, nous envisageons aussi avec deux autres, une école. Et aussi avec la ville de Blois, des procès fictifs sur la cour d'assises.
On avait des questions un peu plus spécifiques, parce que je pense que c'est des questions qui vont vous être posées, qui vont revenir assez souvent. Alors, par rapport au droit familial, alors, une question qu'on se posait, c'était une personne, si on va prendre mon cas, qui a un enfant et qui a une interdiction de rentrer en contact avec la maman, comment peut-il faire pour maintenir les liens parentaux avec son enfant, en sachant que moi, ma fille a 9 ans, et que, à part le courrier, alors elle écrit très bien, elle a une écriture incroyable, j'adore lire ses lettres, mais voilà, si on veut par exemple l'appeler ou la voir tout simplement, comment on peut solliciter qui surtout solliciter pour pouvoir maintenir le lien au-delà de cette interdiction de contact que vous avez avec l'ex-conjointe. Donc, comme il y a beaucoup de détenus qui sont dans ce cas-là, c'était une question qu'on s'était posée et qu'on...
Votre question nécessite de ma part des questions aussi pour comprendre le contexte. Est-ce que c'est une décision du juge des enfants, l'interdiction d'entrer en contact
Oui, JAF, oui, c'est ça. Ouais,
le juge aux affaires familiales.
Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simplement, c'est voilà, c'est comment vous faites pour maintenir vos liens parentaux, en sachant que moi c'est une peine qui est courte, mais quelqu'un qui a une peine un peu plus longue et qui veut maintenir son voilà, il va voir ses enfants, c'est ça, c'est comment il fait pour parce que c'est des cas concrets, hein, parce que quand par exemple vous voulez emmener votre enfant au parloir, mais que l'autre personne ne peut pas l'emmener parce que le parloir va être refusé, parce que vous avez l'interdiction. Et si vous n'avez pas forcément la possibilité de prendre une tierce personne qui peut emmener l'enfant, et ça peut être compliqué aussi pour un enfant de venir en maison d'arrêt avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? La problématique, elle est là. Ça, c'est une question que j'entends souvent ici et qui revient souvent. Des personnes qui veulent maintenir leurs liens parentaux. Quoi.
Entretenir les liens parentaux. Ouais.
Alors, pour le coup, c'est vrai que ça ne rentre plus trop dans le cadre de nos missions. Parce que vraiment, nous, c'est expliquer le droit. Donc, par exemple, si une femme vous interdit de rencontrer votre enfant, là, nous, on peut dire, vous pouvez saisir le JAF qui peut faire respecter vos droits pour imposer des visites, etc. Là, pour maintenir le lien parental, alors que ça a déjà été fixé par le juge, nous, dans ce cadre-là, on ne nous sommes plus tellement compétents, ça ne revient plus de nous. Là, ce sera plutôt une organisation finalement interne de la maison d'arrêt et de leur procédure pour faire venir votre enfant. Donc là, je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne ici. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'en effet, après, sinon, c'est des droits de visite qui sont fixés après par le juge.
Ça serait intéressant d'avoir le... Parce que je sais qu'il y a eu un cas concret qui s'est posé où la personne... La personne avec qui il avait l'interdiction n'était pas contre du tout faire venir l'enfant, mais l'accès à la maison d'arrêt lui a été refusé parce que il avait l'interdiction de rentrer en contact avec la personne, mais du coup pas avec l'enfant. Donc l'interdiction a été...
Il y a plusieurs hypothèses. Alors effectivement, ça dépasse le champ du CDAD. Déjà, il faut savoir quelles décisions sont intervenues. Bon, une interdiction de contact avec l'autre parent, ça peut être soit une décision pénale, soit une décision civile du juge aux affaires familiales. Donc c'est soit vous avez été condamné à une interdiction de contact pénalement, soit c'est le juge aux affaires familiales qui a dit ben là il n'y a pas de contact, par exemple dans le cadre d'une ordonnance de protection. Mmh. Après, ça n'empêche pas de solliciter ce qu'on appelle des droits médiatisés, pour faire en sorte que quand même l'enfant puisse venir. Il y a des systèmes de médiation familiale, mais ce serait beaucoup plus compliqué à expliquer, qui sont soit ordonnés par le juge aux affaires familiales, soit par, c'est possible aussi par le juge des enfants, si le juge des enfants est saisi. Après, je pense que vous avez peut-être aussi le secteur associatif. Vous avez la RAPEJ qui vient, je pense, ici. Ça vous parle cette association ou pas? La RAPEJ qui est vraiment dédiée aux droits des détenus.
La RAPEJ. Voilà.
La maison des familles, ouais.
Ouais, il me semble qu'il y a un lien possible avec cette association à RAPEJ, mais là, ça dépasse pour le coup la sphère judiciaire qui est la mienne. Voilà.
La RAPEJ se situe juste en face de la maison d'arrêt. C'est le petit portail quand vous sortez à droite. Et ils ont des visiteurs de prison, notamment. Et les familles qui souhaitent venir à la maison d'arrêt peuvent laisser éventuellement aussi les enfants à la RAPEJ. Même s'ils ont besoin de se reposer, ils peuvent aller à la RAPEJ. C'est vraiment une maison d'accueil pour toute personne qui veulent être aidées, épaulées par l'association qui est présidée par Madame Christiane Pernin.
D'accord, très bien.
Mais là, vous voyez, pour le coup, si vous avez, pareil, dans l'accès au droit, c'est aussi le droit à un avocat, ça c'est des questions aussi. Ou via le service d'insertion et probation, vous pouvez dire, ben moi là j'ai besoin d'un avocat pour cette situation parce que j'ai besoin de voir mon enfant. Est-ce que quand on est détenu, on doit être sanctionné par le fait qu'on est privé de son enfant? Voilà, vous voyez, donc pour pouvoir vous permettre cet accès, là c'est par le biais d'un avocat, en fait il faut poser la situation. Comme ça, l'avocat verra quelles décisions ont été prises par quel tribunal et quelle juridiction et pourra vous aider à pouvoir voir votre enfant dans un cadre médiatisé, en fait.
Bien sûr. D'accord. Oui, passer par l'avocat ou passer directement par l'administration pénitentiaire pour voir directement ce qu'il est possible de faire.
Sachant qu'il y a quand même pour les avocats un système d'aide juridictionnelle à partir du moment où vous n'avez pas de revenus, vous voyez.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, les garçons? Je vois que Thomas, tu es en pleine...
On sait que la détention peut entraîner une perte du logement pour les personnes qui sont locataires ou même propriétaires avec une vente du bien immobilier. Je voulais un petit peu avoir des précisions sur la perte de logement et une interdiction de siéger dans le département qui a été prononcée par le tribunal. Comment ça se passe du coup? Les détenus sont obligés de reprendre un logement dans un autre département?
Quand il y a une interdiction de département, là où se trouve le logement de l'ancien détenu?
En fait, je comprends vos questions. La difficulté, moi, enfin, en ce qui me concerne, de la réponse, c'est que il faut un temps d'échange, il faut poser des questions. Voilà, c'est compliqué. Ce sont des questions qui sont importantes, hein, je l'entends bien, mais ça nécessite en fait un échange qui pour le coup, si c'est une situation qui vous concerne à titre personnel, il y a aussi un principe qui est celui de la confidentialité.
Non, peut-être de répondre de manière plus générale. Bon, il arrive que le tribunal prononce ce qu'on appelle une interdiction de paraître dans tel département. Voilà. Okay. Donc si vous y avez un logement, il y a plusieurs situations. Il arrive que certains condamnés soient propriétaires de leur logement. D'accord ? Cette interdiction, elle ne vous oblige pas à vendre le bien. Par contre, cette interdiction, elle vous interdit d'être présent physiquement dans le département. C'est ça, en fait, c'est la présence physique. Pareil, si vous êtes locataire, que vous souhaitez garder le logement, si vous le gardez, le principe, c'est qu'il faut... En revanche, jamais être physiquement présent sur le département ou sur la ville si vous avez une interdiction de la ville. Voilà. Et concrètement, quand vous allez être locataire, le bail, vous allez le rompre parce que ça ne vous sert à rien. Mais effectivement, cette interdiction, elle vous oblige à aller vivre ailleurs en réalité. Voilà.
Ça oblige un peu le propriétaire à vendre, plus ou moins, si, selon le délai d'interdiction.
Selon le délai d'interdiction.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ça peut aussi, si c'est sur une interdiction qui dure 3 ans, Mais juridiquement, vous n'êtes pas obligé. Mmh. Parce que juridiquement, la seule chose qu'on vous interdit, c'est d'être présent.
Ouais, c'est ça.
Mais effectivement, dans les faits, vous allez peut-être être contraint de vendre pour pouvoir aller vivre ailleurs. Ou si vous êtes locataire, vous n'allez pas garder votre logement parce que ça ne va vous servir à rien.
C'est sûr. Il faudra bien se loger quelque part. Donc, OK. Vous avez une question ?
Merci d'être là pour nous, d'ailleurs. Ma question, c'est la vie après la détention. Donc, qu'est-ce que vous avez comme projet ou si vous avez déjà des projets pour des aides financières ou sociales pour les détenus ?
Le suivi du détenu après la détention.
Alors là aussi, nous ne faisons pas de suivi concernant les détenus. Ça sera plutôt après le rôle du SPIP et des autres partenaires que le SPIP va renvoyer. Là, tout ce qui est droit social, finalement toutes les aides financières, ce ne sera plus notre compétence. Ce sera vraiment tout ce qui va être la CAF, etc., la MSA, les assistantes sociales.
Il n'y a pas de suivi particulier ou d'organisme pour le suivi de la personne.
Alors
après
pas forcément financier, mais si par contre vous avez des questions juridiques, que ce soit de la famille, vous avez besoin d'un complément d'information que vous avez pu avoir avec la juriste pendant la détention, vous pouvez retourner dans un de nos points justice et on répondra à vos questions de droit et obligations, etc. Mais c'est vrai qu'on fera pas de suivi d'accompagnement social. Là, on renverra par contre, et ça nous arrive de temps en temps, pas mal de fois, de renvoyer après vers les partenaires compétents pour tout ce qui est recherche de logement, recherche de travail, France Travail, tout ce qui va être les aides financières, comme je disais, les assistantes sociales. Donc là, ça sort de notre champ de compétences. Mais par contre, voilà, on les connaît et on renvoie vers les partenaires compétents.
Ouais, donc des personnes qui sont un peu perdues quand même trouveront quand même
une réponse. On connaît les partenaires, on sait comment ça marche, quel conseil départemental, etc. Donc voilà, nous, si la personne pose la question, on dira on renverra. Voilà, contactez telle personne. Les France Services sont là aussi pour ça. Hésiter. Les France Services, sans parler des points justice, les France Services sont là aussi pour aider les personnes qui sont en recherche de travail, qui ont besoin d'être réorientés, d'avoir un contact avec les finances publiques. Les France Services sont vraiment là pour ça, pour retrouver le contact entre les usagers et les services publics.
C'est clair, Moustapha, pour toi ? Oui, c'est bien.
Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait 60 détenus en 2023 qui avaient profité de vos services. Et quelles sont les demandes fréquentes en fait, des détenus par rapport à leurs droits en fait ?
Alors, les thématiques les plus sollicitées, je vais faire par ordre décroissant. Principalement droit de la famille, pour tout ce qui est droit de visite et d'hébergement. Qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi ? Tout ce qui est reconnaissance aussi d'enfants, on a eu beaucoup de demandes aussi. Après, on a aussi droit du travail en deuxième position. Tout ce qui est forcément rupture du contrat de travail, comment ça se passe, les obligations qui découlent aussi à la suite d'une détention. Voilà, il faut prévenir rapidement l'employeur. Et droit de la consommation, donc là, on va surtout avoir tout ce qui est résiliation de contrat de Orange, SFR, etc. Donc nous, on peut aider pour faire la rédaction de courrier. Oui.
Ouais, petite question qui suit. Par exemple, quand on est à son compte, est-ce que c'est possible aussi de prévenir les clients ? Parce qu'on peut prévenir les employeurs, mais est-ce qu'on peut prévenir les clients ? Parce que ça, c'est aussi assez important. J'ai l'impression que c'est un peu écarté.
Alors, je crois qu'il n'y a... J'ai jamais eu la question, donc là, je ne pourrais pas vous dire directement, mais je ne pense pas qu'il y ait d'obligation. Je ne pense pas que la loi prévoit de prévenir les clients,
Parce que des clients peuvent avoir versé des acomptes, peuvent être sans nouvelles de leur artisan, et l'artisan peut passer pour un voleur, alors que... Ça pourrait aussi être quelque chose à réfléchir parce que ça met dans l'embarras quand même.
Oui, c'est vrai, complètement. C'est vrai qu'il n'y a pas de texte de loi qui prévoit cette obligation-là.
Moi, je me retrouve dans ce cas et c'est assez...
Mais après, c'est une question de moralité. Et en effet, prévenir... après, je ne sais pas combien il peut y avoir de clients, mais c'est vrai que s'il y a une centaine de clients, je ne sais pas si...
Non, mais rien que 3-4, déjà, ça suffit
Ou même prévenir la famille aussi, prévenir les proches, dire, est-ce que vous pouvez
faire le...
Ça, c'est possible, souvent, passer par la famille ou après faire des courriers en effet. Au client directement.
On n'a pas toujours l'adresse en tête qui reste.
Oui, et en plus, bien sûr, tout à fait.
Pas accès à toutes les informations qu'on veut. C'est pas évident de demander des informations sur des gens en particulier selon l'affaire pour laquelle on est ici. On peut pas faire ce genre de demande. Mais enfin voilà, c'était la
pour,
question.
Pour précision, donc nous on ne fait pas tout ce qui est personnel, donc on ne recherchera pas le client, etc. Mais par contre, si par exemple je prends le cas d'une résiliation de contrat bancaire, nous on peut, vous vous souvenez plus de l'adresse, nous on peut rechercher votre banque, trouver l'adresse et puis revenir vers vous pour faire le courrier. Voilà, on peut faire des recherches complémentaires sur ça. Et souvent c'est le cas, on fait des recherches complémentaires. Parfois il peut y avoir des questions vraiment spécifiques. Je pense notamment mélanger droit de la famille. Mais si l'enfant est à l'étranger, comment ça se passe? Donc c'est plus le même droit. Donc nous, on fait des recherches complémentaires. Mais voilà, donc après, c'est pas un souci pour nous de faire des recherches complémentaires s'il y a besoin.
C'est vrai que ça m'a étonné qu'on puisse parler du salarié envers son employeur, mais pas de l'employeur ou du petit artisan qui est dans une situation aussi où finalement, il perd son travail et la confiance des clients aussi.
Bien sûr.
Forcément, ils n'ont plus de nouvelles.
Une question tout à fait légitime. Bien sûr.
Et pour rebondir sur votre question, parce que c'est souvent la question suivante, pour régulariser la situation, votre situation administrative, en fonction de votre statut d'entrepreneur, le CDAD est là pour vous informer des démarches à suivre.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Super. Et ensuite, vous pouvez reprendre contact avec le SPIP pour faire une déclaration de cessation d'activité.
Ouais.
Quel que soit le statut, on a le CDAD, comme tout le monde d'ailleurs, nous avons accès par Internet à un certain nombre d'informations. C'est à nous, CDAD, de vérifier que la source est parfaitement exacte et de, par exemple, donner le bon numéro de formulaire. C'est un gain de temps et cela évite aussi des erreurs.
Ouais, okay.
Voilà. Nous ne remplissons pas le formulaire, nous n'adressons pas le formulaire, mais on est là pour faciliter votre démarche.
Non, c'est vrai, parce que ça peut être aussi tout nouveau. Donc, pour
absolument.
Y a des détenus, c'est leur première détention dans des situations particulières. C'est vrai que des fois, ça paraît. Un petit peu infranchissable. Il y a des obstacles qui paraissent infranchissables. On va dire comme le fait de rester sans réponse ou de penser qu'on n'aura pas de réponse sur justement un sujet comme
tout ce qui est administratif.
Ça peut vite être compliqué.
Et à la fin de la consultation, dans le cas de la permanence ici, si je n'ai pas la réponse, je peux transmettre la réponse ensuite au SPIP.
D'accord. Voilà. Ok.
Si ça ne nécessite pas un nouveau rendez-vous dans le cadre de la permanence ici, l'information vous sera transmise par le SPIP.
D'accord.
Vous vous assurez que dans tous les cas, on ait une réponse à notre question.
Oui, vous aurez une réponse.
Quoi qu'il arrive.
Oui. Et dans les meilleurs délais. C'est toujours dans les meilleurs délais.
Ok.
Efficacité. Très bien. Thomas, je te vois en train dans une réflexion là. Tu as peut-être une.
Peut-être juste pour un titre d'information, nous avons un site internet qui reprend toutes nos actions, tous les points justice, notre flyer du CDAD avec la carte de tous les points justice. Donc n'hésitez pas à aller dessus, il y a toutes les informations nécessaires. Puis on a aussi tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc., YouTube, si vous voulez avoir plus d'informations. À l'extérieur,
pour l'instant, on aura du mal à l'accéder.
Pour un titre d'information et pour les personnes qui nous écoutent à l'extérieur,
C'est vrai que YouTube, on oublie un peu ici. On avait une question, qu'on s'était posée, qui peut peut-être être un peu étonnante, mais y a-t-il des critères que vous suivez pour appliquer des peines adaptées? Donc, comment identifier les profils? Est-ce que vous en avez le temps parfois? Situation familiale, les emplois, les antécédents, comment ça se passe? Est-ce que la place dans les prisons est-elle prise en compte est-ce que c'est déterminant par rapport au verdict qui peut être donné peut-être pour madame la procureure?
Alors, le principe, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de la peine.
D'accord.
Donc quand on prononce une peine, c'est à la fois en regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ou de l'accusé si on est aux assises, c'est-à-dire son parcours personnel de vie. Ce qu'on recherche dans la justice, c'est avant tout, alors jamais excuser, ça c'est pas possible, mais en tout cas comprendre, parce que si on comprend, on a accès à l'autre et on peut être sur une peine qui sera utile pour la personne qui a été condamnée. Voilà. Le parcours en détention, Là, par exemple, je sors des assises, il a quand même un poids important. Voilà, si vous vous comportez bien, que vous êtes investi, forcément que ça aura un impact sur la peine qui est prononcée ensuite. Parce que ça montre votre volonté de vouloir vous amender, entre guillemets.
C'est ça.
Voilà. Après, globalement, la détention, c'est un statut très particulier parce que vous êtes enfermé. Mais ce que je dis souvent, c'est que la détention, c'est une perte de liberté, ça ne doit pas être une perte de dignité. Voilà. Donc il faut être très attaché. Voilà, par exemple, la maison d'arrêt, elle commence à être un peu pleine, un peu trop pleine. Donc on essaye de faire en sorte qu'elle ne le soit pas trop, justement. Et que vous ayez aussi accès, via le chef d'établissement, à toute une série d'activités,
ouais,
pour que vous puissiez être dans une détention qui est active. Voilà, parce qu'en
fait,
c'est pas, la justice, elle s'arrête pas au moment du prononcé de la peine.
Mais oui, mais oui.
Ouais. C'est après, c'est tout votre parcours pour favoriser votre réinsertion et pour qu'ensuite on ne vous retrouve pas. Voilà, la peine, elle a pour objet avant tout de lutter contre le risque de récidive.
Oui, oui, la détention doit avoir du bon aussi, c'est sûr que...
La détention, enfin, en soi, la prison, elle n'a pas de sens comme ça, enfermer quelqu'un pour l'enfermer. Par contre, la détention, elle peut avoir du sens.
Ouais, ouais.
Si vous, détenu, vous vous saisissez de cette détention, et si vous avez... les personnes qui sont à côté de vous pour vous aider à ça. Donc le service d'insertion et de probation et la maison d'arrêt en soi. Voilà.
Et le temps qui permet de réfléchir aussi.
Voilà. C'est la volonté de la personne même. Bah, il faut que qu'il s'investisse. Bah, la personne s'investit et prend un pas en avant pour montrer comme quoi il a compris la leçon et d'ailleurs pour s'en sortir avec un résultat positif. Bon, voilà, pour moi.
Très bien, Moustapha. Premier pas, déjà, c'est que tu as mis une belle chemise bleue.
Exactement, il est classe. Là,
ça, c'est un premier pas, déjà.
On se sent un peu ridicule, là.
Ça fait un pas intéressant.
Mais il ne voulait pas nous le dire la semaine dernière.
Oui, parce que c'est un cachotier, c'est pour ça.
Merci beaucoup. Merci,
merci
à
beaucoup
vous
pour votre intervention.
Merci de nous avoir accueillis. On est venu avec plaisir.
Exactement, merci beaucoup à vous.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup à vous également.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout
On se retrouve dans l'émission Zonzonzef sur Radio Zef. Vous venez d'écouter Santa, recommence-moi. Ça vous a donné la pêche, même si vous allez vous coucher dans pas longtemps. Maintenant, l'heure du débrief de l'interview. Armand, t'en as pensé quoi de l'interview ? Un peu impressionné d'avoir rencontré la procureure, j'imagine ?
Bonne question. Non, impressionné, non, pas impressionné, mais bon, c'était sympa de pouvoir échanger.
Elle était relativement accessible, ouais.
Oui, dans un cadre un peu informel.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça.
On a pu quand même poser les questions qu'on voulait. Je ne doutais pas que ça allait se passer comme ça. Non, mais bien, et puis je les ai sentis aussi.
Ils sont investis.
Investis, ouais. Elles ont bien échangé sur le rôle du CDAD. C'était
ce qui m'a impressionné, c'est le nombre qu'elles sont au CDAD. Est-ce qu'elles sont que deux, finalement je trouve que ça fait peu de personnes pour potentiellement, ou à moins que les gens soient frileux d'aller demander des conseils. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Combien de personnes ça peut représenter exactement sur une année qui viennent poser des questions au CDAD. Je trouve que ça fait peu de personnes.
Je ne sais pas si on leur a demandé si c'était à titre bénévole ou quoi qu'elles faisaient cette action.
Elles sont salariées.
Elles sont salariées.
Ouais, okay. Elles prenaient du temps sur.
Est-ce qu'on en a juste le nombre ? Elles nous ont donné le nombre de détenus qui avaient consulté le CDAD 41. Et je crois qu'on a entre 60 et 70, si mes souvenirs sont bons.
Exact.
Sur l'année.
Ouais, c'est ça.
Avec un bon par rapport aux années, aux années précédentes. Ouais. C'est ça.
On trois fois plus.
Une vingtaine à solliciter le CDAD dans les années précédentes.
Exact.
Et là, on arrive à pratiquement 70, il me semble.
Ouais.
Je pense que ça a été sympa parce qu'elles ont été claires dans leur action, bien précises et tout. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile.
Oui, c'est nécessaire. Nécessaire. Parce que même, pour n'importe qui, je pense qu'on ne s'intéresse pas trop aux droits, à nos droits, au-delà du basique, avant qu'il nous arrive un pépin, trop...
La justice, tu t'y intéresses quand il est confronté.
Exactement.
Quand ça ne te concerne pas, on ne calcule pas trop tout ce qui est judiciaire. On n'a pas un litige avec...
Ne serait-ce des choses toutes basiques comme un conflit de voisinage ou des choses comme ça ou à qui faire appel, est-ce qu'on fait appel à un médiateur de la République, des choses comme ça. C'est des réponses
qui
peuvent nous apporter.
C'est sûr. Au quotidien, je pense que j'y ferai plus attention quand même parce que c'est quand même important de connaître ses droits et les recours qu'on a aussi. Ou les appuis, les soutiens, les possibilités. Parce que sinon, on arrive là, au départ, on se dit que... on en a parlé pendant l'émission, mais le temps qu'il faut ici pour que les informations passent, c'est assez long. Alors, quand on n'a pas d'infos, qu'on n'y connaît rien...
C'est encore plus long.
En plus d'être long, c'est angoissant. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller se renseigner ou poser des questions, même avant, si possible. Maintenant, le dire comme ça, c'est simple, mais avec du recul, j'aurais préféré m'y intéresser un peu avant.
Oui, mais c'est jamais le cas.
Ouais, voilà.
Tu n'en s'y intéresses pas. Quand on n'est pas confronté à un problème judiciaire, tu ne vas pas aller voir. Oui, mais est-ce que c'est ça au cas où.
Après, on est un numéro de dossier. Son cas, c'est juste un numéro de dossier, donc il ne faut pas s'attendre à ce que notre profil soit étudié. On est jugé par rapport à des faits et puis point quoi.
La procureure a quand même parlé de la personnalisation de la peine.
Normalement, parce qu'on avait posé des questions.
Elle met
ça.
Un point d'honneur à ce que les peines soient fonction de la.
Mais le problème, c'est que les procureurs, si elle arrive sur son bureau et qu'elle a une pile qui fait 3 mètres de haut.
C'est ça. Ah oui, non, il faut se mettre à la place, c'est clair.
Comment tu veux traiter la chose de façon personnelle et
C'est sûr.
Tu peux pas.
C'est ingérable.
Je pense que le problème, il est là.
Après, je suis pas un grand spécialiste, mais pour réexpliquer de ma vision et de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vu, le procureur, a l'œil sur le dossier, sur ce qui s'est passé, sur la situation, sur le cas du prévenu.
La gravité des faits,
selon la gravité
le procureur
des faits,
va proposer une peine adaptée
selon lui,
qui peut être retenue par le magistrat ou pas.
Voilà.
Le procureur, c'est celui qui est côté de la défense.
Voilà, ouais, c'est ça.
Okay.
Il est présent pendant le. Ouais, tout le monde passe devant lui.
Le procureur, oui, t'as amené à le voir plus ou moins tout le long du, de ton affaire.
Ouais.
Bah, déjà au commencement.
Le ou les.
Oui. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Le procureur, il intervient aussi dans les. Qu'on appelle ça. Quand tu fais des demandes de, d'aménagement et tout, il va donner son avis.
Juge d'application
et
des peines.
Et le procureur aussi est présent pour les commissions d'aménagement de peine.
Puis il y a le juge de, du droit des libertés aussi, non, de la détention et des libertés qui.
Tu le vois au début de ton instruction, le juge des libertés.
C'est au tout début.
Justement, c'est lui qui va.
Dire si oui ou non. Tu peux être laissé avec un bracelet
ouais, c'est
ou.
Ça. Ouais, en gros, je pense.
Oui, puis on n'est pas des experts non plus après, mais. On donne
moi je regarde beaucoup truc, New York
unité police, spéciale ouais.
avec les propres et tout donc je m'y connais.
On a un expert là, attention.
Mais c'est aux États-Unis hein, c'est pas en France.
Ah donc, ouais. Ouais, tu connais le droit américain.
Ah ouais ah, t'inquiète
je
pas.
Je vois. Ouais. Ben, moi je sais pas pour vous les gars mais je suis bien content d'avoir participé à l'émission en tout cas, je trouve que c'était
on remercie
cool.
Bien chaleureusement les intervenantes.
Exactement.
Donc les membres du CDA 41 et madame la procureure.
D'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu.
L'émission est réécoutable sur le site de Studio Zef.
StudioZef.fr, avec la podcast même qui est téléchargeable, c'est ça
voilà. Mais c'est des pros de la radio, les mecs.
On a un contrat, on a signé un contrat, nous. Hein.
Ah oui. Ouais, c'est très bien. On va faire de la radio.
Ouais, c'est.
Faire ton émission de radio.
Ouais, je pense, ouais. J'ai bidouillé un truc en cellule, histoire d'envoyer sur des ondes un peu pirates, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Avec une fourchette et un.
Ah ouais, tu fais la radio pirate.
C'est un peu compliqué de capter quelque chose, mais bon, ça va. On y croit.
On finit en musique.
Bah ouais, je crois que t'as choisi un truc, ouais.
Moi, j'ai choisi.
Ouais, je crois
que c'est. Oui, parce que comme il y a la pub de la Renault avec Phil Collins qui passe tout le temps, ça m'est venu en tête, tu sais. Et comme j'adore Phil Collins, bah j'ai pensé à ça.
Eh bah ok, ça marche.
Phil Collins.
Allez, c'est parti. Phil Collins.
In the air tonight.
Et au plaisir. Au revoir.
Allez,
à tous.
Au revoir tout le monde.
Bye bye. Good night.